journée à l'écoute d'Europe 1, il est 13h01.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Ma mission, vous la connaissez, vous montrer que la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Aujourd'hui, c'est la déco de Noël qui est à l'honneur, le sapin français, les guirlandes françaises, les boules de Noël made in France. Il suffit de chercher, oui, c'est possible, vous allez voir. 11 générations se succèdent à la tête de Revol, la porcelaine février, les couleurs de la France, avec notamment ses célèbres tasses froissées. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis c'est la semaine anniversaire de la loi de 1905. On va ouvrir ensemble le grand livre de la laïcité, acheté par les villes aujourd'hui, mais aussi par les offices HLM. C'est la solution pour remettre du dialogue là où il a disparu. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous connaissez évidemment le numéro du standard. Venez, on vous attend. Appelez dès maintenant si vous voulez prendre la parole. Anissa, venez nous dire, tiens, par exemple, si vous faites attention à la provenance de votre sapin de Noël et à celle de vos décorations.
On écoute vos témoignages, on écoute également toutes vos questions. Les invités de Raphaël Duchemin vous répondent, bien sûr, au 39-21. Et puis sur Twitter, questions, réactions, témoignages, avec le hashtag Europe 1. Tiens, je vous en donne un déjà tweet, parce qu'il y a déjà des rapides.
Ah.
Raphaël, Alain nous dit, j'ai contacté un décorateur, il m'a fait une décoration de Noël 100% végétale et je dois vous dire que le rendu est splendide. Je recommande la société Végédérive.
Eh bien, nous allons parler végétal justement dans un instant. Pour accueillir nos invités à mes côtés, Elisabeth Assayag, c'est le retour. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, le trublion chef Augustin Paluel-Marmont. Bonjour Augustin.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Alors en ce moment, c'est vrai que nous sommes nombreux à avoir déjà acheté ou à être un peu en retard, c'est vrai, pour acheter le sapin de Noël pour les fêtes, indispensable pour que le Père Noël, bien sûr, puisse poser à ses pieds les cadeaux qu'il a dans sa hotte. Mais il y a sapin et sapin. Bonjour Pierre Naudet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de My Little Sapin. Il est avec nous, My Little Sapin. Si vous le voyez, vous êtes peut-être branché sur europe1.fr. Il est dans le studio d'Europe 1. Grâce à vous, depuis 2013, on peut commander son petit sapin personnalisé.
Voilà, exactement. C'est le concept est assez simple. En quelques mots, My Little Sapin propose un petit sapin en pot avec ses racines, personnalisable, la couleur du pot et le choix de la déco, et livré partout en France en 48-72 heures.
Il y a plusieurs tailles de sapin ?
Alors, c'est des petits sapins, mais on propose tout de même deux tailles, 35-60 cm et 60-90 cm.
Et chaque fois, vous renouvelez la déco d'année en année. Vous essayez de changer, de faire de nouvelles propositions.
Alors exactement, My Little Sapin essaye de rester tendance. Donc chaque année, on propose de nouvelles décorations. Donc cette année, notre créatrice Laura a composé cinq nouvelles décos. Je vous en ai amené une ici, c'est le sapin des rois avec des petites boules bleues.
Vertes,
des petits rubans
et
blancs,
des plumes de pan. Ça c'est beau,
c'est
ça,
magnifique,
c'est original.
Dites-moi, le sapin, ça vous est venu comment? Vous étiez quand même déjà un peu tombé dedans depuis tout petit, non? Vous êtes
sapin,
dans une famille de pépiniéristes.
My Little Sapin est un projet qui est né au sein d'une entreprise familiale dont j'ai la chance de représenter la sixième génération, et nous sommes producteurs de sapins de Noël depuis les années 60. En fait, à la base, nous sommes pépiniéristes et reboiseurs et producteur de sapin de Noël.
Alors justement, Elisabeth, le marché du sapin de Noël, c'est quoi? Ça représente quoi?
Bah déjà, c'est un marché qui est toujours plus important. Hein. Il est estimé à 185 millions d'euros chaque année. Ils sont de plus en plus nombreux. Plus de 7 millions de sapins vendus. 86% sapins naturels, 14% seulement de sapins artificiels. Et le prix moyen pour un sapin de Noël, eh bien, il est de 26 euros.
Et on fait comment justement la différence en termes de prix?
Alors ça dépend si vous préférez le côté authentique et naturel. Vous aurez généralement le choix entre le Nordman et l'épicéa. Vous, c'est
un petit épicéa.
Épicéa. Déjà, on a une indication.
Alors déjà, l'épicéa, il est moins cher normalement, mais il sent très très bon. Il perd très vite ses aiguilles. Il dure moins longtemps. Le Nordman, il a une couleur un peu plus éclatante. Il donne une apparence un peu plus fournie. Il ressemble davantage au sapin, vous savez, sur les montagnes. Quoi.
Oui,
dans la forêt, enneigée, enferrée, exactement, enneigée. Il est très résistant. Il est un peu plus cher, donc le Nordman, en moyenne 15% de plus que la moyenne dont je vous parlais tout à l'heure de 26 euros. Il y a le sapin en pot que l'on a là dans le studio d'Europe 1, qui est également un peu plus cher, mais bien entretenu. Vous pourrez même peut-être l'utiliser tous les ans. On peut l'utiliser tous les ans, celui-ci?
Alors, Exactement. En fait, vous disiez que le sapin épicéa perdait ses aiguilles, c'est lorsqu'il est coupé. My Little Sapin, c'est un sapin en pot qui, avec ses racines, qui est vivant. Donc le concept My Little Sapin, c'est justement qu'on peut le garder,
on peut le replanter,
conserver après Noël, le replanter et le replanter ou dans un pot ou alors dans son jardin, enfin dans un espace naturel. Et nous, on donne tous les conseils à nos clients pour conserver leur sapin après Noël. Et pouvoir le replanter.
Alors justement, si on n'a pas l'espace pour le replanter, je crois qu'il y a une solution, c'est que vous pouvez le reprendre. Hein.
Exactement.
Vous avez un système pour ça.
Exactement, on a pensé à ceux qui souhaitaient le replanter mais qui ne pouvaient pas. Donc on propose un bon retour pour envoyer son sapin après les fêtes. Et nous, on le récupère et on le replante dans la forêt My Little Sapin.
Que dit notre coach, Augustin ?
Non, mais moi, ce qui me frappe en venant dans cette émission, c'est à quel point la proportion d'entreprises familiales dans vos invités, donc dans la France qui bouge, est très importante. Donc ça montre que souvent le capitalisme familial qui s'inscrit dans une durée un peu plus longue et qui est sans doute un peu plus sain est quand même une des forces vives de notre beau pays. Et moi, ce que j'adore dans l'histoire de Pierre, c'est qu'à la fois il s'inscrit dans un héritage et dans une poursuite d'une aventure familiale entrepreneuriale, mais qu'il développe aussi ses talents d'entrepreneur en montant My Little Sapin. Alors évidemment, quand on dit My Little Sapin, moi je pense directement à cette super boîte My Little Paris.
Oui,
j'espère
qu'elle
était d'accord. Mais c'est pas con quand on monte une boîte de prendre le nom inspiré d'une boîte qui cartonne et de se mettre un peu dans son sillage. Je pense que la cohabitation s'est très bien passée. Mais en tout cas, on retient immédiatement le nom My Little Sapin.
Ouais, c'est pas faux, Pierre.
C'est pas faux, en fait, mais le nom colle tout à fait au produit puisque My Little Sapin est un petit sapin.
Et oui.
On l'adopte
ça,
très
ça
facilement.
Ça décrit bien l'objet, on est d'accord. Anissa ?
Alors j'avais une question sur ce sapin qui pour l'instant fait 60 cm, mais vu qu'on peut le garder, le rempoter et peut-être le garder plusieurs années, est-ce qu'au final on pourra avoir un grand sapin ? Est-ce qu'il est amené à grandir ce petit sapin ?
Alors il est amené à grandir. Si on le rempote dans un pot un peu plus gros, il va continuer à pousser. Au bout d'un moment, il va quand même être limité, donc il faudra le rempoter dans un pot encore plus gros. Ou alors le mettre
dans le jardin,
voilà, totalement en pleine terre et il va continuer à pousser et il fera des pousses de 20 à 30 cm par an.
Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Elisabeth, il y a deux catégories de sapins, hein, les épicéas et les Nordman. Vous avez aussi des Nordman ou il y a uniquement des épicéas ?
En pot, pour My Little Sapin, c'est uniquement des épicéas parce que c'est des sapins qui, quand on les taille, font la boule même lorsqu'ils sont petits. Mm. Les sapins Nordman sont moins volumineux quand ils sont petits.
Et il y a combien de personnes qui travaillent avec vous dans ce projet de My Little Sapin ?
Alors, My Little Sapin, c'est uniquement pendant les fêtes, mais c'est une équipe de 7 personnes à plein temps qui se donne beaucoup. Et
même pendant
je les remercie tous d'ailleurs à cette occasion.
Et pas mal de clients hein, déjà aussi depuis 2013.
Alors, effectivement, on n'a fait que croître. On distribue donc nos sapins essentiellement en ligne. On a de plus en plus d'entreprises qui font appel à nous. Pour offrir les sapins à leurs clients, à leurs employés. C'est un cadeau original.
En oui,
plus,
parce qu'on n'a pas donné le prix,
mais
c'est important.
Je crois qu'on en avait reçu un, nous, d'après ce que tu me disais tout à l'heure.
Oui, je connais un de vos fournisseurs qui vous en a envoyé un il y a 2 ans. C'est un cadeau original. En plus, on peut personnaliser les sapins aux couleurs de l'entreprise.
Et il y a des tarifs différents par rapport aux tailles, je suppose. Ça
Alors,
va
oui.
de combien à combien ?
Alors, le My Little Sapin, c'est à partir de 31,50 jusqu'à 53,50 €. Ouais.
On reste ensemble, on va décorer le sapin dans un instant, ne bougez pas.
Il est 13h09.
Europe 1.
Ils font partie du patrimoine culturel à la période de Noël. En Provence, les Santons sont de sortie. L'une des dernières maisons à les fabriquer, Carbonel, est avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui, on prépare Noël. Bah oui, ça approche en 18 jours.
Oui.
Avant le grand jour, alors on décore le sapin, on l'installe et on fait tout ça, bien sûr, made in France. Vous pouvez réagir à cette émission, n'hésitez pas, les invités de Raphaël Duchemin vous répondent au 39-21, 50 centimes la minute, ça c'est le standard. Et puis Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Toujours avec Elisabeth Assayag qui est à mes côtés et avec notre coach aujourd'hui, c'est Augustin Paluel-Marmont. Chaque année, c'est vrai qu'à la même époque, hein, les mairies se déchirent bien souvent autour de la présence ou non des fameuses crèches. Mais en Provence, c'est une vieille tradition. Bonjour Michel Barbaudy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez les Santons Marcel Carbonel, qui est une entreprise du patrimoine vivant, qui est labellisée. Car ce qu'on ne sait pas, c'est que le tout premier moule à Santons, il a été inventé à Marseille. Je crois que c'était autour de 1796, c'est ça ?
Oui, c'est Jean-Louis Lagnel dans le quartier du Panier à Marseille, effectivement, qui a inventé le Santon d'argile. et qui a inventé également le moule en plâtre pour pouvoir le reproduire en quantité.
Alors, vous dites bien, 100 tons d'argile, c'est oui. particulier parce que chaque région à l'époque avait sa manière de fabriquer des 100 tons. Et dans le sud, c'était l'argile.
Non, dans le sud, ça a démarré avec de la mie de pain, de la pâte à sel.
Moi, j'en ai fait, moi, quand j'étais petite comme ça.
Et donc, c'est vraiment Laniel qui, lui, le premier, a fait des 100 tons d'argile. Le 100 tons existait, bien évidemment, avant, puisqu'on trouvait des crèches dans les églises, hein, qui ont été interdites. Enfin, l'accès aux messes de minuit a été interdit pendant la Révolution. Et donc, c'est là où la crèche s'est domestiquée et où le peuple se l'est appropriée.
Et l'a ramenée à la maison.
Et l'a ramenée à la maison en faisant des petits sujets avec différentes matières. Voilà.
Alors, les 100 tons carbonels, ils arrivent un peu après, 1935.
Oui.
L'entreprise, elle est restée dans la famille très très longtemps, jusqu'à ce qu'on vous confie les rênes. Hein. C'était quand ?
Oui, mais c'est toujours une entreprise familiale, puisque le gérant, c'est Philippe Renoux Carbonel, donc le petit-fils de Marcel Carbonel, qui est propriétaire de l'entreprise.
Et ouais. Mais si vous êtes là, ce n'est pas un hasard.
Qui m'a appelé pour la diriger, voilà.
Parce que vous avez les compétences pour le faire et qu'il y avait un petit quelque chose en plus avec les 100 tons carbonels.
Vous savez, quand Marcel Carbonel a commencé comme un artisan et puis très rapidement il a eu du succès, il lui a fallu de l'aide. Donc il a employé 2-3 salariés et puis c'est devenu une entreprise. Quoi. Donc il faut savoir faire des 100 tons bien sûr, mais il faut surtout savoir gérer aussi une entreprise.
Vous en vendez combien des 100 tons aujourd'hui?
La production est stable à 130 000 pièces à peu près par an. Oui.
Avec des séries, hein, je crois, des séries de 50, c'est ça?
Il y a 6 tailles différentes et ça part des plus petits, on les appelle les puces, ils ne font que 2 cm de hauteur. Jusqu'aux plus grands qui font 15 cm.
Et chaque année, vous arrivez à créer de nouveaux personnages, parce qu'on connaît évidemment le meunier, la boulangère, le gardien de moutons. Vous arrivez comme ça à vous renouveler ?
Oui, il y a les personnages d'origine, bien sûr, la scène de la nativité au départ, et puis les personnages de la pastorale Morelle, les bergers notamment... mais chaque année, effectivement, on rajoute au moins une nouveauté et on la choisit dans les petits métiers d'autrefois, du 18e et 19e siècle.
C'est quoi la nouveauté cette année ?
Alors cette année, la nouveauté, c'est la chapelière. Marseille a été longtemps une place forte pour la chapellerie, puisque au 18e siècle, on comptait quelques milliers de personnes qui travaillaient dans ce secteur. Et donc, on a pensé intéressant de témoigner de ce passé et de réaliser la chapelière.
Je disais tout à l'heure que vous êtes un des rares, hein, finalement, à encore fabriquer des 100 tons. Vous en avez trouvé d'autres, Elisabeth ?
Il y en a quelques autres. J'ai trouvé les 100 tons Jouve, vous les connaissez peut-être.
Hein. Oui, bien
sûr. Ils sont aussi fabriqués avec la méthode, le savoir-faire ancestral, hein, la main, avec de l'argile. Il y a les 100 tons Richard, qui existe depuis 1968 à Aix-en-Provence, ou encore les 100 tons Didier, fabriqués aussi à Marseille, de manière artisanale, selon la tradition provençale, chaque modèle est en terre cuite et décoré à la main.
C'est un tout petit milieu.
Oui.
Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à résister, dites-moi, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait qu'on résiste quand on est dans le 100 tons aujourd'hui? Parce que justement, c'est cette tradition.
C'est difficile de maintenir des activités comme la nôtre, parce qu'effectivement, tout est fait à la main. Et quand on connaît les charges qui pèsent sur les entreprises, et notamment au niveau de la main-d'œuvre et des salaires, c'est difficile de s'en sortir. Et on survit, voilà.
Ouais, tout
avec
est fait à la main,
passion.
il faut enlever le surplus, hein, sur le 100 tons, il faut ensuite le laisser sécher, c'est vraiment comme avant.
Et absolument, la méthode n'a pas changé, c'est toujours la même. Ce qui a changé de l'époque de Laniel, c'est que Laniel a fait des 100 tons en terre mais crue, et qu'après nous les avons cuits, ces 100 tons, pour les rendre plus solides. Mais sinon, c'est exactement les mêmes méthodes.
Qui se perpétue.
Ouais.
Que dit notre coach, Augustin ?
Michel, c'est une histoire incroyable. Et quand j'entends que tu es en croissance nulle et que c'est déjà compliqué de tenir la baraque comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de te dire, mais peut-être partir à l'export, aussi trouver d'autres moments de consommation. C'est-à-dire, comment est-ce que les foyers français peuvent arriver à créer et utiliser des santons autrement que juste pour Noël. Donc on a vraiment envie de vous aider.
Il y en a en Provence, hein, sur les buffets notamment, dans les maisons.
Il y a des collectionneurs qui, effectivement, au-delà de monter la crèche chaque année, les rangent ensuite dans une vitrine visible et les contemplent toute l'année. Alors au niveau de l'export, on en vend quand même un petit peu à l'étranger.
Bien sûr.
Alors,
en Chine notamment?
Non, c'est plutôt en Europe, Suisse, Allemagne, Belgique et puis aux États-Unis également. Voilà, mais c'est à peu près tout. Alors, on en envoie partout dans le monde parce qu'il y a des particuliers expatriés qui sont aux quatre coins du monde. Mais au niveau des revendeurs, voilà, c'est les pays que je viens de citer.
Mais moi, je suis convaincu que dans toutes les industries et même dans l'artisanat, on est toujours capable d'apporter des innovations de rupture qui permettent de partir sur des très belles histoires de croissance. Donc moi, ça m'amuserait quasiment de brainstormer une demi-heure avec toi un jour pour te dire comment est-ce que cette très belle aventure qui stagne un peu, on peut lui donner un nouveau souffle.
Pas parce des santons qui clignotent, par exemple.
Non, mais il y a plein d'idées.
Ou pour la Saint-Valentin, pour Halloween.
Parce qu'on ne peut pas t'entendre juste résigner en disant « ouais, on survit, c'est dur », ce qui est le cas. Mais moi, je suis convaincu qu'on peut aller beaucoup plus loin.
Oui, alors
bon. Après, il faut avoir envie d'y aller. Hein. C'est ce que
Elle est là, l'envie, Michel. Elle est là.
C'est de maintenir une tradition avant tout qui est magnifique. Et déjà, on est content avec ça. Voilà. On maintient cette tradition qui est ancestrale chez nous en Provence. Et bon, le reste.
J'ai fait chou blanc.
mais non. On va travailler ça. Je suis sûre qu'il y a des choses à faire.
Quand même. Voilà. Allez, on est toujours là. On est toujours vivant et c'est l'essentiel.
Oui, vous avez bien raison. On reste ensemble. On continue à parler Noël, décoration et sapin, bien sûr.
Il est 13h20.
Europe 1.
Parce que le sapin, ça y est, on l'a. Et si on le décorait un petit peu plus, tiens, si on le personnalisait pour l'habiller avec des boules et des guirlandes françaises, c'est possible, grâce notamment à MT Déco. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et la France est impatiente. Elle attend Noël avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Donc, on prépare le sapin, les décos et tout ça. C'est du Made in France, bien évidemment, avec vos invités, Raphaël Duchemin. Vous pouvez réagir, poser vos questions. Dites-nous, vous, comment vous choisissez vos sapins, vos décos. Au 3921, c'est le standard d'Europe 1. Et puis sur Twitter, avec le hashtag Europe 1.
Toujours avec le coach du jour, Augustin Paluel-Marmont, et avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne. On va habiller notre sapin, et oui. Est-ce que vous regardez, tiens, les étiquettes des guirlandes, des boules que vous achetez? Parce que c'est vrai, ils sont rares, mais il y a encore des producteurs de décorations de Noël. Bonjour Jean-Philippe Toer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé MT Déco en 2005, mais au début, je crois que vous étiez plutôt dans le sapin naturel, hein, c'est ça?
Absolument, une entreprise familiale de sapins de Noël. Et ensuite, avec ma femme, nous avons créé notre propre entreprise de décoration de Noël pour évoluer. Suite à la demande de nombreux clients.
Oui, c'est vos clients qui vous ont dit on a le sapin, on aimerait bien que vous
nous
donniez la décoration avec.
Ça a été le déclic. Donc au départ, on a fait pas mal de négoces en fait pour la déco de Noël. Et puis ensuite, on s'est mis à faire de la production puisqu'on, de façon à gagner en rapidité, en dynamisme et en qualité essentiellement. Nous sommes mis à faire de la fabrication.
Oui, c'est pas du tout la même chose. Comment est-ce que vous avez trouvé les matières premières pour fabriquer vos premières boules?
Une envie très très forte d'entreprendre. Donc énormément de visites dans le monde entier pour trouver des matériaux, des fournisseurs, etc. Et puis après, le challenge de créer des moules, comme les santons, mais là pour faire des boules. Et puis de fil en aiguille, investissement dans des machines de découpe numérique, etc., etc.
Et alors, vos boules, elles sont particulières. Vous avez notamment créé la boule, alors, Bolkit, hein, c'est comme ça qu'on dit?
Bolkit est la marque, est une de nos marques, puisque vous avez la marque Côté Noël pour ce qui est Noël.
C'est elle?
Et Bolkit pour la boule de Noël qu'on va vendre finalement toute l'année, sous différentes formes, en présentoir, en emballage, en... Voilà.
Alors celle-là, elle est faite exprès pour nous. Regardez, il y a écrit Europe 1, si vous nous suivez sur europe1.fr. Et à l'intérieur, il y a un petit cadeau. Elle s'ouvre, c'est ça, et on peut récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de la boule. Ça veut dire qu'on peut toutes les personnaliser, on vous contacte et on a nos boules finalement faites pour notre sapin, avec ce qu'on veut écrit dessus.
Alors en fait, c'est un modèle qu'on a breveté, hein. c'est très simple, hein. Ce sont deux coquilles mâles et femelles qui s'emboîtent tout simplement. Alors bien entendu, on est copié, hein, bien sûr, par le monde asiatique, mais bon, on rajoute des nouveautés tous les ans et de la réactivité. Et on a plus de 60 couleurs disponibles, de 5 cm à 60 cm de diamètre. on utilise le plastique, hein, donc des matériaux incassables.
Entre guillemets. Avec des fabricants français, je le précise, c'est important de le dire.
Absolument, absolument.
Ils sont où vos fabricants ?
En France, bien sûr.
Oui, nommé où ? Dans quelle région ?
45, Val-de-Loiret.
Bah oui, c'est bien de les saluer.
Centre Val-de-Loire, à 1h30 de Paris.
Le premier usage, on le disait, c'est à Noël, mais je crois que vous êtes diversifié aussi. En 2007, vous êtes parti à l'export.
En fait, non, nous avons développé, grâce au web, en fait, hein, au digital, un site internet en multilingue, en 6 langues. Et grâce à ça, on arrive aujourd'hui à faire environ 30% de chiffre d'affaires à l'export.
30% de chiffre d'affaires à l'export. Elisabeth, on a d'autres fabricants en France, justement, sur ce domaine des boules de Noël ?
Alors, figurez-vous qu'une grande partie des boules de Noël, hein, qui agrémentent les décors des fêtes de Noël et de fin d'année, sont fabriqués aussi à Carmaux, hein, dans le Tarn. Vous les connaissez ?
Absolument.
Voilà. Chantier d'insertion, c'est ça ?
Voilà, c'est avec un chantier d'insertion donc qui fait appel à des personnes pour se réinsérer professionnellement. Mais à part cela, franchement, il n'y a plus grand-chose en France en matière de décoration de Noël. Hein.
Absolument.
C'est quasiment désert.
Exactement, vous avez tout dit.
Que dit le coach cette belle histoire, belle aventure hein, quand même.
Très belle histoire et comme beaucoup de Français, j'ai fait les décos de Noël à la maison le week-end dernier. Et en fait, j'ai reçu après par WhatsApp un petit film, je ne sais pas si vous l'avez vu, de plusieurs familles espagnoles qui en fait, eux, transforment carrément leur maison dans une déco de Noël totalement incroyable. Il y en a de partout et ça m'a donné envie d'acheter encore plus de boules de Noël et de rendre en fait nos foyers encore plus festifs. Et moi, j'ai eu la chance de passer 2 ans à New York. Et ce qui est fou absolument à New York, dans un quartier de Brooklyn, par exemple, toutes les maisons extérieures sont décorées, donc ça devient quasiment un site touristique. Mm-hmm. Et là aussi, je trouve qu'en France, cette joie de Noël, on l'a dans nos foyers, mais on ne la montre pas assez chacun à l'extérieur. Et moi, je rêve qu'on achète des boules de Noël et qu'on en décore nos appartements, nos façades d'immeubles, de maisons, pour que ça rayonne au-delà de notre foyer intérieur.
Jean-Philippe Toer, vous avez le sentiment qu'on a encore effectivement une marge de progression. Ici, en France, il y a un vrai marché qui peut faire comme aux États-Unis, par exemple. Vous pouvez encore vous développer ?
Nous déposons énormément de brevets, que ce soit pour les boules ou pour d'autres décors de Noël, pour les collectivités notamment. Là, par exemple, vous avez une boule à l'intérieur, vous pouvez la personnaliser, mettre des photos, la photo de vos enfants, différents thèmes, des petits.
Vous avez le même système que les poupées russes aussi, je crois, hein, avec des boules à l'intérieur des plus petites.
Oui, mais on peut faire énormément de choses. Et il faut rester innovant et puis aller de l'avant.
On reste ensemble, on continue à parler déco de Noël sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et s'il y a une région où la magie de Noël opère, c'est l'Alsace, évidemment, cette féerie. C'est à Mésental que vous pourrez notamment la vivre. On va partir en Moselle. Le centre d'art verrier nous offre encore, cette fois-ci, des boules, mais à l'ancienne.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous, Raphaël Duchemin, vos invités. Et aujourd'hui, sapins et déco de Noël sont made in France.
Et je vous propose tout de suite de passer un petit coup de fil au directeur du Centre international Verrier. Il est en Moselle, à Mésental. Bonjour Yann Greenenberger.
Bonjour.
Merci vraiment de nous accorder quelques minutes. Vous êtes à la tête du centre et de l'atelier qui emploie au total 17 personnes. Mais je crois qu'à Noël, vous êtes deux fois plus. Ce centre, il est quand même très particulier à Mésental parce qu'il y avait au départ une verrerie qui a embauché jusqu'à 650 personnes là-bas. Aujourd'hui, elle n'est plus là, mais c'est vous qui êtes le garant de ce savoir-faire qui est ancestral.
Effectivement, hein, la verrerie de Mésental a connu une épopée industrielle incroyable entre 1704 et 1969. Elle s'est malheureusement éteinte à l'aube des années 70. Et depuis une trentaine d'années, des érudits locaux, des bénévoles, des élus se mobilisent pour réanimer cette friche industrielle, et notamment en 1992 avec le réallumage d'un nouveau four et la naissance du Centre international d'art verrier, qui a comme objectif de sauvegarder et remobiliser les savoir-faire traditionnels propres à notre pays de Beach, qui recèle de plein d'unités de production de légendes comme la cristallerie de Saint-Louis ou la cristallerie Lalique à quelques pas de chez nous.
Alors dites-moi, il y a un savoir-faire très particulier. Avant, on avait sur ces boules de Noël, donc en verre, une manière de faire. Et il y a une histoire, hein. C'est pas complètement au hasard qu'on les a fabriquées en verre. C'est parce qu'à un moment donné, en France et dans cette région en particulier, on n'avait plus de quoi décorer les arbres.
Bah effectivement, hein, en 1858, la légende ou la vie dit qu'il y a eu une grande sécheresse dans les Vosges du Nord, sur le massif dans lequel on se positionne, et pas de fruits d'arrière-saison aux arbres. Pas de pommes de pin, pas de noix, pas de petites pommes qui décoraient de manière classique les arbres. Et là, une verrerie inspirée du village voisin de Meisenthal, à Gützenbrück, a eu l'idée de remplacer ces fruits manquants par des boules en verre qu'il fabriquait de toute manière, puisque cette unité de production fabriquait du verre de lunettes et on les fabriquait en soufflant des boules. Et de là est née une aventure incroyable, puisqu'ils ont produit jusqu'à 250 000 boules de Noël par an, argentées, jusque dans les années 60.
Et je précise qu'en 99, vous en avez vendu 50, c'est pas beaucoup, mais aujourd'hui, 45 000 hein, qui sont fabriqués dans l'atelier. Je vous propose de rester avec nous. Je voudrais faire réagir Jean-Philippe Toer, qui est aussi dans ce métier, dans cette fabrication des boules. Alors, on n'est pas dans le verre, mais on est dans le plastique. C'est important, finalement, de garder ces savoir-faire. Hein.
Absolument, absolument. Je connaissais bien d'ailleurs les boules en pommes de pin, en pommes ou autre.
Hein.
C'est vraiment l'histoire de la boule de Noël qui nous est très chère. Et on évolue bien sûr avec les matériaux. Nous, on est déjà sur des matériaux biodégradables et autres pour aller plus loin. Mais on y va doucement, on y va.
Je voudrais vous donner les messages qui nous parviennent, hein, notamment au 39-21. On n'aura malheureusement pas le temps de les prendre en ligne avec nous, c'est bien dommage. Il y a Colette qui nous dit « Nous avons des sapins qui sont vendus par des paysans à côté de Saint-Étienne. Les sapins viennent du massif du Pilat, c'est un revenu complémentaire. C'est important de les soutenir, c'est un circuit court. Je préfère acheter local, ils sont plus beaux, il y a du choix et on peut négocier les prix, c'est super. » Elle n'a pas tort, Colette, hein, c'est bien d'aller acheter à côté de chez soi. Qu'est-ce que vous en dites ?
Moi, je suis tout à fait d'accord. Le local, c'est important. Donc, nous, My Little Sapin, on envoie les sapins un peu partout en France, mais on reste un producteur local puisque notre production est en Bourgogne.
Sixième génération de pépiniéristes, hein, quand même. Pareil, hein, on a un message pour vous aussi. Françoise de Coulombier dans la Vienne qui nous dit « Tous les ans, nous installons une crèche dans notre maison. Mes parents avaient une crèche Carbonel et je suis en train de constituer la crèche de ma petite fille. » De 2 ans et demi. C'est une marque à laquelle nous sommes très attachés. Vous voyez, il y a encore des gens qui sont attachés à ces traditions. C'est important. C'est aussi ça qui nous donne du baume au cœur aujourd'hui.
Oui, oui, la tradition perdure, heureusement. Mais voilà, et puis ben, je m'en profite pour remercier cette auditrice.
Oui, Françoise, on l'embrasse.
Voilà, ça passe des parents aux enfants et puis ça continue comme ça dans les familles.
Anissa, on a des messages sur Twitter ?
Il y a un tweet de Jean-Xavier qui, à mon avis, est un conseil pour les auditeurs d'Europe 1. Pour le choix du sapin, sachez qu'il y a des labels, label rouge, plante bleue, qui permettent d'avoir des sapins plus éco-responsables.
Oui, le label, Elisabeth, c'est important. Hein, il existe ce label sur les sapins.
Hein, les sapins label rouge, pourquoi c'est un label rouge ? Parce qu'ils ne doivent pas être coupés avant le 21 novembre pour une mise sur le marché au plus tôt le 1er décembre. En fait, ils respectent un cahier des charges bien précis.
Oui, Pierre, vous voulez rajouter quelque chose ?
Le label rouge garantit la fraîcheur. Nos sapins en pot sont vivants. Donc,
ça veut dire que celui-là, par exemple, il a été coupé à quel moment ?
Non, celui-là, il est en pot, il a ses racines, il est bien vivant et c'est pour ça qu'il peut être replanté. Et ce sont des sapins labellisés plantes bleues.
Il a été extrait quelque part où il est né dans ce pot.
Il est né dans son pot.
Il est né dans ce pot, d'accord.
Il a été planté dans son pot.
Le coach, que dit-il ?
Un autre exemple dont je parlais tout à l'heure aussi à la pause, c'était apporter de l'innovation. Et moi, par exemple, j'ai mis ce week-end sur ma voiture que j'utilise une fois par jour à Paris, 2 oreilles que j'ai ramenées des États-Unis de cerf avec un grenouille rouge. Mais attendez, ça fait marrer tout le monde. Mais effectivement, tous les gens que je vois dans la rue, là, ce matin, devant l'école des enfants, me prenaient en photo. Donc comment, dans ces thématiques, pour faire rayonner la joie, c'est ce dont on a besoin dans les périodes de fêtes, on arrive aussi à créer des modes durables, des nouveaux usages. Et à Brooklyn, à New York, tout le monde avait ses 2 oreilles. De serre et ce nez rouge sur sa voiture. Sympa. Je trouve que c'est tout simple, super sympa. Donc, il est toujours possible d'innover, même dans des secteurs traditionnels.
Il faut faire la même chose sur le vélo, Augustin. Hein ?
Exactement.
Parce qu'Augustin est souvent à vélo, c'est pour ça que je me permets de lui faire une petite blague. Merci à tous d'avoir été avec nous pour parler sapin et décoration de Noël aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
Vous connaissez sûrement leur célèbre tasse toute froissée. Revol est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci.
La France bouge sur Europe 1 et la France innove. Bien sûr, chaque jour, vous nous présentez une entreprise française qui va bien, Raphaël Duchemin. Et aujourd'hui, elle va décorer nos tables de fin d'année ou de toute l'année.
Et oui, cette entreprise, elle fait partie du club très fermé des Enochiens, c'est-à-dire des entreprises familiales qui ont plus de 200 ans. Bonjour Olivier Passot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Revol Porcelaine. Je parlais tout à l'heure de la fameuse tasse froissée qui vous a aujourd'hui assuré une renommée mondiale. On va y revenir. Mais l'histoire, elle démarre quand même il y a très très longtemps. Vous êtes la 11e génération. Le premier, c'est Joseph-Marie Revol, c'est ça ?
C'est exactement Pierre et Madeleine, les fondateurs. Joseph, c'est celui qui
commence l'entreprise, vraiment
voilà, l'aventure. Qui met l'entreprise sur la carte, on va dire. En déménageant sur un plus grand site et en créant vraiment la première fabrique. Mais ses parents, avant lui, avaient mis la petite graine pour démarrer notre histoire.
Alors, elle démarre cette histoire dans la Drôme, hein, oui. Où vous êtes toujours d'ailleurs.
Oui, absolument, sur le site historique.
Avec une terre qui est particulière, qui est riche en kaolin.
Oui.
C'est ça qui fait la force de la porcelaine Revol.
Alors, la raison de notre implantation locale dans le nord de la Drôme, c'est effectivement qu'il y a des matières premières. On a exploité ces matières premières pendant des siècles. Ça s'est quand même terminé au milieu du XXe siècle, puisqu'on s'est mis à acheter nos matières, puisqu'on a anobli progressivement le matériau, notre porcelaine, et ça impliquait d'acheter ces produits pour faire quelque chose d'un peu plus haut de gamme.
Vous êtes toujours à Saint-Uze ?
On est toujours à Saint-Uze.
Vous êtes un des seuls à faire de la barbotine ?
Oui.
C'est ça ? Racontez-nous, parce que je suis persuadée qu'autour de la table, et peut-être ceux qui nous écoutent sur Europe 1 ne savent pas ce que c'est.
Ah, c'est une longue histoire, hein. Ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais en bref, on mélange dans des broyeurs pendant une dizaine d'heures quand même avec de l'eau, du feldspat, de l'argile, du kaolin, ce sont des minéraux en fait, hein, de la silice, ça vous parle peut-être un peu plus, et on broie tout ça ensemble très très finement, on tamise et on obtient une pâte liquide qui s'appelle effectivement la barbotine.
Alors au départ vous faites des modèles traditionnels, on peut dire ça ?
Dans l'histoire de Revol, bien sûr, on était sur les tables des ménages avec des produits assez traditionnels, on était beaucoup dans le flaconnage aussi, notamment pour tout ce qui est spiritueux, liqueur. Voilà, et puis on s'est, au fil des périodes, on s'est renouvelé jusqu'à aujourd'hui.
Et puis on va sauter les générations, on arrive à vous, vous arrivez en 2000.
Oui.
Et quand même, vous redynamisez carrément le secteur et la maison parce que vous reprenez les rênes et votre chiffre d'affaires a fait un bond en 3 ans de 45%. J'imagine que ça fait pâlir pas mal de monde de jalousie dans le milieu.
Écoutez, je ne sais pas si pas liste de jalousie, je sais pas. Nous, on s'intéresse surtout à nous, à nous-mêmes, à notre avenir et à la manière d'avancer. Et c'est clair que voilà, on y met beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, avec une équipe formidable, dévouée et consacrée à ce projet. C'est une entreprise qui a une âme, qui raconte quelque chose et on a tous un attachement très fort à cette
marque. C'est important, vous dites, il faut pouvoir raconter une histoire.
Oui. Mais on a la chance de la voir, cette histoire, elle est là, sous nos pieds, dans nos murs, là où on est. Donc elle existe, il n'y a qu'à s'en saisir et qu'à la partager et bien sûr l'embellir du mieux possible, sans la galvauder bien sûr.
Et vous avez réussi parce que vous avez créé la tasse froissée, la fameuse qui est mondialement connue. Comment ça vous est venu cette idée-là ?
C'est venu par, en fait, tout simplement, c'est un client qui nous a soumis l'idée, un client allemand qui faisait beaucoup d'objets fantaisie avec nous à l'époque et qui nous soumet l'idée. Alors vous savez que les Allemands ont une conscience écologique plus développée à la base que la nôtre. Et puis voilà, ça lui pose un problème que ses salariés remplissent des poubelles de gobelets en plastique. Et il nous a soumis cette idée, qu'on a trouvée très farfelue au début. Mon père était dans la société à l'époque, il n'y croyait pas du tout. Puis voilà, la jeune génération s'est arc-boutée, on a sorti ce produit et puis il a connu un succès assez majeur pour nous en tout cas.
Que dit le coach ?
Et c'est un produit qui est compliqué techniquement à faire ou pas du tout ?
C'est un produit relativement compliqué à faire parce que chez nous, il y a trois techniques de fabrication, de la plus productive à la moins productive. Ce gobelet, vu sa forme, ce côté froissé, plié, implique de le fabriquer avec la technique la moins productive, c'est-à-dire qu'il est fait essentiellement à la main. Il y a 10 opérations manuelles différentes pour obtenir le produit final. Voilà, donc c'est beaucoup d'opérations et beaucoup de reprises.
Et visiblement, c'est un produit breveté, donc sur toute la planète, oui, quand on en trouve un, ça vient de chez toi.
Oui, sauf si on a été copié à ce moment-là.
Et c'est copié ?
On s'en occupe. Oui. C'est extrêmement copié.
Mais c'est sanctionné.
Et moi, ce que je trouve assez frappant, c'est que c'est un produit, évidemment, que je connaissais, que je trouve absolument magnifique et vraiment une innovation de rupture majeure. Mais je n'étais absolument incapable d'y associer une marque. Donc c'est là de l'association entre un produit et une marque. Donc je suis content d'avoir le créateur et la marque en face de moi.
Il faut soulever la tasse et regarder dessous. C'est écrit dessous, Revol en noir, en principe.
C'est vrai.
Vous faites travailler combien de personnes toujours dans la Drôme aujourd'hui notamment ?
230 personnes,
oui. Avec des corps de métiers très différents, je suppose.
Ah, très très différents, de ceux qui fabriquent la pâte jusqu'à ceux qui façonnent, qui émaillent, puisque ça c'est un geste très important dans notre métier, ceux qui cuisent, ceux qui finissent aussi, puisqu'on a bavuré chaque produit à la main.
Bavuré.
Et bavuré, ouais, c'est-à-dire enlever les coutures du plan de joint du moule, mm-hmm. Une fois qu'on a démoulé. Et puis après cuire, bien sûr, et puis voilà, contrôler, étiqueter, emballer, expédier.
C'est toujours fait de la même manière depuis 11 générations ou presque.
Alors on a plusieurs techniques, hein, mais les techniques évoluent, mais il n'y a pas d'innovation majeure en termes technologiques sur les dernières années. Ça se poursuit.
Olivier, vous êtes la 11e génération, la 12e génération sera là aussi au rendez-vous chez Revol ?
Écoutez, j'ai 4 enfants, donc tous les espoirs sont permis. De garçons, de filles, on verra. Mais ça serait le rêve
pour
absolu.
Pour continuer à écrire l'histoire.
Ouais, bien
et, sûr. Et l'histoire directe, les produits, les nouveaux produits, justement, 2019, vous avez déjà en tête, je suppose, ce que vous allez nous proposer.
Oui, on a fait une très belle collaboration avec un designer qui s'appelle Noé Duchaufour-Lorenz.
Très épuré.
Voilà, très épuré. Une création dont on est assez fiers, qu'on aime beaucoup tous et qui reçoit vraiment un bel accueil. Donc ça fait toujours plaisir quand on prend des risques, parce que pour nous, ça représente des gros investissements et des choix forts. Et puis, on a une collaboration avec un designer moins connu qui arrive là en janvier sur un produit assez innovant, je pense. Voilà, c'est notre devoir, c'est d'innover tout le temps, sans cesse, de faire les bons choix aussi. Et puis voilà, de se différencier. C'est nos leitmotivs et on s'y tient.
C'est Revol, c'est l'entreprise qui va bien. Merci, merci Olivier Passot d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Merci à vous.
Il est 13h47.
Europe 1.
Restez avec nous, on va feuilleter ensemble le grand livre de la laïcité. La journée de la laïcité, c'est dimanche et vous allez voir qu'aujourd'hui, il est une solution, notamment pour retisser le dialogue. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h, juste avant de se quitter, il faut vraiment prendre de quoi noter parce qu'on vous donne la solution du jour, Raphaël.
Oui, tenter de mieux se comprendre les uns les autres, on en a plus que besoin. Et à l'occasion de la journée de la laïcité, Elisabeth Assayag, une initiative, un grand livre sur la laïcité. Pour les collectivités notamment.
Absolument, ce livre c'est le livre géant de la laïcité, c'est plus qu'un livre, hein. c'est un grand livre, outil pour mieux faire passer le message de ce qu'est vraiment la laïcité. Et il est plus que jamais indispensable d'en parler, de l'expliquer, car chaque jour une trentaine de cas d'atteinte à la laïcité remontent par exemple au ministère de l'Éducation nationale. Alors comment expliquer la laïcité et surtout comment montrer que la laïcité, par exemple, protège les religions ? C'est l'objet même de ce livre géant personnalisé pour chaque ville de France.
Raphaël. Bonjour Jean-Michel Oppy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il est là, ce grand livre de la laïcité. Je l'ai dans les mains si vous nous suivez sur Europe1.fr. Vous êtes à l'initiative de ce livre géant. Comment vous est venue l'idée de consacrer un livre entier à la pédagogie de la laïcité ?
L'idée m'est venue suite aux attentats de Charlie où je marchais dans Aix avec plusieurs milliers de personnes. Avec des amis, on se posait la question, mais bon, voilà, c'est bien de marcher, c'est bien de se recueillir, oui. Mais derrière, il faut faire quelque chose. Et moi, la réponse que j'ai apportée, enfin que j'ai essayé d'apporter, c'était de parler de la laïcité. Et pour ce faire, donc j'ai décidé de créer un livre. Et c'est un livre... La base, c'est qu'il soit personnalisé pour que ce soit c'est pas un livre d'éditeur, c'est le livre de chaque mairie, de chaque société.
Par exemple, c'est celui de l'Union des maires des Bouches-du-Rhône. Ça veut dire que dans chaque mairie, il y a ce livre aujourd'hui ?
Non, là, dans chaque mairie, vous avez l'exposition, puisque ce livre existe en plusieurs formats, en format 2,20 m, en A3 et en A4. Et donc ça, c'est... vous avez le livre et vous avez l'exposition qui tourne dans les 119 mairies des Bouches-du-Rhône.
Elisabeth, alors en quoi est-il différent d'une ville à l'autre ? Vous prenez quoi en compte pour faire un pour les Bouches-du-Rhône, un autre pour celui qui est à Nissa, qui est
pour les offices HLM, je crois.
Pour les offices HLM,
qu'est-ce qui est différent ?
Il y a un message différent ?
Alors, ça s'adapte. C'est-à-dire que chaque couverture est personnalisée en fonction. Là, par exemple, vous avez la couverture des OPH 05 donc sur les Hautes-Alpes.
Oui, on voit les HLM en haut,
à
c'est
de
ça.
La Croix, dans l'esprit de la Croix. Vous avez Briançon, Gap, Tallard, en brun, plus le siège de l'OPH 05. À l'intérieur, vous avez un édito et un texte
dédié
À la région ou à la mairie ou à l'entreprise.
Oui.
En l'occurrence,
oui, bah là,
ils,
là,
ils sont complètement différents.
Là, c'est pareil. On a le nom des villes, effectivement, des Bouches-du-Rhône, par exemple, qui est inscrit sous le dessin, sous la peinture.
Là, je prends par exemple un autre exemple que là, j'ai dans les mains. C'est une association qui s'appelle Appartudis des quartiers latins, où donc vous avez la couverture où on voit Paris,
et à l'intérieur, ça change quelque chose.
Et à l'intérieur, là, sur l'édito, vous avez un édito en français et en anglais, avec un remarquable édito de la direction d'Appartudis qui dit, donc c'est des résidences pour les jeunes travailleurs et les étudiants, dit bienvenue en France, bienvenue chez nous. Néanmoins, il y a des choses à respecter. Les rapports hommes-femmes, c'est comme ça, comme ça. Si vous avez une religion, on vous félicite, mais gardez-la pour vous.
Ouais, ça veut dire que ça permet de remettre les choses à leur juste place.
Absolument.
Et de recréer aussi le dialogue. Qu'est-ce que dit notre coach de ce grand livre, de ce livre géant ?
Moi, c'est une idée brillante parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de problèmes dans nos sociétés viennent par un manque, par l'ignorance. En fait, on ne sait pas et on juge beaucoup sur des préjugés. La différence aujourd'hui fait peur. Et je trouve que tout ce qui permet d'apporter des éléments simples et pédagogiques pour apprendre à mieux vivre ensemble, c'est absolument remarquable. Et moi, en parcourant là le livre à l'instant, par exemple, toi, l'article 2 de la loi 1905, je ne le connaissais pas. Il me surprend même quand on dit « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Je ne sais pas si c'est encore vrai.
Oui, oui. Sauf dans quelques particularités, voilà, notamment en Alsace-Moselle.
Mm-hmm. Donc voilà. Donc je trouve que voilà, tout ce qui permet de faire que nos différences soient une chance pour nos sociétés.
Elisabeth,
enfin, vous le vendez aussi aux entreprises ?
Bien sûr, vous avez par exemple EDF qui va démarrer une grosse opération, EDF Méditerranée, qui va le donner à tous ses salariés à la rentrée. Le groupe Lavarap, pareil.
Vous
sur
fixez
les
un cadre en quelque sorte.
On fixe un cadre et surtout, pour rajouter à ce que disait le coach, c'est la notion de respect. Qu'on essaye de faire passer, la notion de liberté, la notion de respect, qui est plus qu'une loi, qui doit devenir une philosophie. Et je pense qu'on en aurait bien besoin en ce moment.
Le livre géant de la laïcité, la journée c'est dimanche, et là c'était la semaine anniversaire de la loi 1905. Merci Jean-Michel Oppy d'être venu nous en
Merci
parler. On dit à bientôt à notre
Merci.
Coach Augustin. Nous on se dit à lundi, Anissa
à
et
lundi.
Elisabeth. Nous parlerons de la dynamisation, de la redynamisation des centres-villes. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des revendications qui figurent dans le cahier des charges des Gilets jaunes.
Merci.
À lundi.
Merci Raphaël Duchemin. À lundi à partir de 13h sur Europe 1. Dans un instant, à 14h pile, comme tous les jours, Christophe Ondelat raconte avec aujourd'hui une affaire criminelle. Souvenez-vous, le 28 juin 1996, près de Bourg-en-Bresse, le couple viré disparaît après une soirée festive entre amis. Leurs enfants les attendent jour et nuit. Ils ne rentreront jamais. La disparition du couple viré, c'est à 14h avec Christophe Ondelat, bien sûr, sur Europe 1.